autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, en ce tout début d'année 2021, année du vaccin, année du lien. C'est le meilleur que l'on puisse se souhaiter et que je nous souhaite de tout cœur pour traverser ce qui nous arrive, à commencer par une, par des crises de confiance généralisées. Comment faire société quand ce socle qu'est la confiance vacille de toutes parts et dans tous les domaines? Sanitaire, économique, scientifique, politique, entre théorie du complot, avalanche de vraies fausses news, comment retrouver un minimum de confiance en nous, en ceux qui nous gouvernent et en notre avenir sur Terre? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités. L'économiste Claudia Sénic, professeure à Sorbonne Université, auteure de L'économie du bonheur, qui a dirigé l'ouvrage collectif Crise de confiance, point d'interrogation, aux éditions La Découverte, et la philosophe et chercheuse en sciences cognitives Elena Pasquinelli, auteure avec Mathieu Farina, son complice de la main à la pâte, de L'art de faire confiance pour un nouveau contrat entre la science et les citoyens, aux éditions Odile Jacob, sacré chantier pour ce début d'année, avec en cadeau pour vous, chers amis auditeurs, ces deux ouvrages à gagner autour de la question « Comment reconstruire la confiance ?». Bienvenue donc pour nous y mettre tous ensemble, car il y a du boulot, comme le chantait déjà en 1967 Jacques Dutronc.
On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien.
On nous cache tout, on nous dit rien. Le tube des Jacques Dutronc et Lanzmann est toujours d'actualité 55 ans plus tard. Tout a changé et pourtant, en 2021, nous en sommes toujours, encore et plus que jamais, peut-être en crise de confiance, avec au pluriel, hein, pour reprendre le titre de l'ouvrage collectif que vous avez dirigé. Claudia Sénic, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct, en présentiel, comme on dit désormais en ces temps de pandémie. C'est pourtant avant même la Covid-19 que l'économiste que vous êtes, professeur à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris, directrice scientifique de l'Observatoire du bien-être de la Fondation pour l'essence sociale, que vous avez lancé en novembre 2019, hein, très exactement. Oui. C'était la 7e journée des sciences sociales, consacrée donc aux crises de confiance, au pluriel. Hein. Des contributions que vous avez rassemblées dans cet ouvrage, qui vient de paraître à La Découverte, crise de confiance avec un point d'interrogation. Alors pourquoi, Claudia Sénic, ne faisons-nous plus confiance en 2021? Pourquoi tant de crises de confiance partout dans tous les domaines? Et pourquoi c'est grave? Vous n'êtes pas docteur, hein, mais j'ai envie de vous dire pourquoi c'est grave, docteur Claudia Sénic?
Oui. Ben, c'est grave parce que la confiance, si on réfléchit même à l'étymologie du mot « cum fides », c'est le fait de se fier à autrui et donc de pouvoir entreprendre n'importe quelle action qui nous met en interaction avec quelqu'un d'autre, soit entre personnes, soit entre citoyens, soit entre les citoyens et le gouvernement ou dans une relation même commerciale. Et donc si on ne fait pas ce pari, si on ne peut pas anticiper le fait que les autres vont se conduire d'une certaine manière, qui soit à la fois bienveillante, compétente et juste, ben à ce moment-là, l'action devient très difficile et la vie ensemble, la relation devient très difficile. La société, finalement, perd ses fondements.
Oui, la crise de confiance est généralisée, c'est fondamental pour une société. En plus, elle est tout de même aujourd'hui accentuée encore par l'accumulation d'informations. Hein. On pourrait reprendre la chanson de Jacques Dutronc sans en changer un mot, mais peut-être le titre, on nous cache tout et on nous dit tout.
On nous cache tout, on nous dit rien, ouais.
Et on nous dit rien, on nous dit tout. Parce qu'au fond, aujourd'hui, on
ouais.
nous dit un peu tout. Hein.
Mais en fait, c'est que, bizarrement, pour avoir confiance dans les gouvernements, par exemple, ou les scientifiques, on a envie d'aller voir, on exige la transparence, on exige que les médias aient accès à toute l'information, on exige de pouvoir discuter, s'informer, etc. Mais plus on le fait et plus on risque d'avoir cette impression de bah, finalement tous pourris, on s'est rendu compte de... La transparence accroît la visibilité des choses qui prend une taille, une apparence beaucoup plus impressionnante qu'elle ne l'était.
Alors comment reconstruire la confiance aujourd'hui? L'art de faire confiance, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Elena Pasquinelli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct depuis chez vous. Hein. Nous n'avons droit qu'à un ou une invitée par studio. Elena, alors je précise que vous êtes philosophe, spécialiste en philosophie des sciences cognitives, membre de la Fondation La Main à la Pâte et du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Vous venez de publier aux éditions Odile Jacob avec Mathieu Farina « L'art de faire confiance pour un nouveau contrat entre la science et les citoyens ». Alors ça, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui dans tous les domaines, à commencer évidemment par la santé, bien sûr, en cette période de pandémie, mais aussi pour tout ce qui est de toutes les questions environnementales. Il y a vraiment urgence, Elena, à apprendre, à réapprendre peut-être, à faire confiance. La science, au cœur même de cette question, et dans tous les sens d'ailleurs, comment peut-elle nous y aider, la science finalement, à nous refaire confiance, à apprendre l'art de faire confiance?
D'abord, je pense qu'il faut, ressouligner, comme le disait la collègue, l'importance d'apprendre à faire confiance, de toute manière de faire confiance à bon escient, pour pouvoir profiter de l'autre dans un bon sens, dans un sens positif. Faire confiance, ce n'est pas juste un acte de générosité, bien au contraire, est en quelque sorte un acte égoïste que nous faisons pour pouvoir participer à la société et pour pouvoir exploiter les connaissances que notre société nous met à disposition et que certains métiers en particulier produisent grâce à leurs méthodes. Nous ne pouvons pas individuellement construire ou reconstruire toute la connaissance produite par l'humanité depuis des millénaires. Donc la seule manière pour avoir accès à ces connaissances, eh bien, de faire confiance. De faire confiance à ceux qui nous les mettent à disposition, de faire confiance à ceux qui les produisent. Mais pour cela, il faut au moins à minima comprendre quelle est la différence entre une connaissance qui est produite par des méthodes solides, rigoureuses, fiables, et une opinion comme on en trouve énormément sur Internet, dans les médias et ailleurs. Donc d'arriver à faire le tri entre des connaissances qui méritent notre confiance et des connaissances ou des opinions qui sont moins fiables et donc qui doivent être mises, disons, d'un côté avant de pouvoir les accepter, qui doivent être revérifiées, etc. Donc, apprendre à faire confiance, c'est d'abord apprendre à avoir ce type d'esprit critique qui nous permet de distinguer entre ce qui mérite notre confiance et ce qui ne le mérite pas. Donc, il y a une question d'éducation, au fond, du citoyen.
Claudia Sénic.
Mais justement, à ce propos, je crois que récemment, avec la crise du Covid, on a vu les scientifiques débattre entre eux, et même parfois avec des non-scientifiques, qui commençaient par dire « je ne suis pas médecin, mais je pense que si et ça ». Et ça a introduit une confusion entre deux choses qui doivent être distinguées, à savoir la recherche et la science. La recherche, c'est le processus où on cherche à établir justement des connaissances qui sont acceptées par toute la communauté scientifique spécialisée, et qu'on appelle parfois « état de l'art », c'est-à-dire ce qu'on accepte comme étant vrai et qui marche d'ailleurs, jusqu'à la prochaine découverte. Et puis la recherche, c'est le processus qui conduit à ça. Une fois qu'on a établi quelque chose, ça fait partie de la science. On peut avoir confiance dans la science. Mais quand on montre et qu'on met en scène la recherche et on cherche à aller le plus vite possible pour développer un vaccin, et tout ça, c'est au vu et au su de toute la population, ça peut donner l'impression que finalement, on n'est pas trop sûr. Mais si, à un moment donné, on atteint un certain consensus et ça devient l'état de l'art. Et là, on peut faire confiance.
Elena Pasquinelli, j'imagine que vous voulez réagir là-dessus parce que c'est vrai que ça s'est énormément posé et que le temps des informations, le temps de la pandémie, notre temps à nous, le temps de la science et le temps de la recherche et le temps médical n'est pas le même. Et le temps des politiques, encore moins.
Non, et ça crée effectivement, des malentendus qui sont tout à fait compréhensibles. Il faut probablement se déculpabiliser aussi en tant que citoyen. On a été pris dans une situation extrêmement complexe et dans une grande accélération. On a l'habitude d'être exposé à la science stabilisée, hein, qu'on nous raconte des connaissances et que donc on puisse faire tout simplement état et dire « Ah bah d'accord, on sait que hein, », c'est ce qu'on apprend à l'école, on sait que la Terre, on sait que les volcans, etc. Là, pendant un an, et c'était un peu une opportunité à la fois bizarre et excitante, on a assisté à la recherche en train de se faire. Des fenêtres ont été ouvertes, des portes ont été ouvertes, mais ont été ouvertes d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on est entré par le côté de la porte, on regardait dedans, on voyait des gens se battre des fois, chose qui est totalement normale en phase des recherches. Les scientifiques obtiennent un résultat, discutent, débattent des fois de façon un peu forte aussi. Le lendemain, un autre résultat arrive, on dit « Ah non, mince, alors c'est lui d'hier, non, non, attends, il faut revoir la chose. » Et c'est ça la science, effectivement, en train de se faire. On y a assisté en tant que spectateur citoyen, sans être accompagné à interpréter ce qui était en train de se passer, sans avoir ce regard pédagogique de dire, ah, voilà, la connaissance est en train de se construire. Vous avez vu, il y avait un article hier, mais aujourd'hui, naturellement, une nouvelle recherche a mis des nouvelles naissances en jeu, donc il faut changer la donne. Et si on avait pu comprendre ça, on aurait compris effectivement que ce processus typiquement un peu plus lent que cette année est celui qui amène au bout de quelques temps à des connaissances stabilisées.
C'est et ça, là, et auquel on peut, voilà. Et on ne pouvait pas faire...
On peut faire confiance, naturellement, tout sachant distinguer, sachant dire, bah, plus des connaissances sont convergentes, elles viennent de plusieurs laboratoires différents, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites entre-temps, qui confirment la même vision, elles se sont stabilisées au cours du temps, bah, plus elles méritent naturellement la confiance, plus elles font, et on le voit par un signe très, très, très évident, c'est le consensus scientifique. Hein. Une fois qu'elles font consensus au milieu des experts, on a un bon signal que cette connaissance commence à être bien stabilisée.
Et que là on peut donc faire confiance autour de cette question, on a bien compris, essentielle, hein, à la base de nos sociétés, question essentielle de la confiance. Je propose tout de suite un nouvel éclairage, une autre définition peut-être qui rejoint la vôtre, hein, de la confiance. C'est l'éclairage du philosophe suisse Marc Ougnadi, professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'Université catholique de Louvain. Il vient de publier aux éditions de l'Aube, « Au début est la confiance ». On l'écoute.
L'idée fondamentale du livre, c'était de montrer que la confiance n'est pas liée simplement à des situations particulières de risque, où il faut calculer des risques, comme par exemple lorsque nous achetons une voiture d'occasion ou qu'on engage une baby-sitter, mais que la confiance est véritablement ce dans quoi nous séjournons. La confiance est rapport au monde et se distribue sur l'ensemble de nos rapports au monde, rapport aux objets, rapport aux personnes, rapport aux institutions. D'ailleurs, la crise du coronavirus a bien montré que, au fond, dans le temps du confinement, nous avons suspendu toutes ces relations, puisqu'on ne pouvait même plus toucher. Notre relation tactile aux choses était elle-même mise en cause. Et ça montrait donc bien par la négative, en quelque sorte, que en temps normal, eh bien, nous sommes dans un rapport de confiance avec les choses, avec les personnes que nous embrassons, que nous côtoyons, etc. Et l'idée fondamentale, c'était donc de partir du rapport pratique au monde, c'est-à-dire du rapport que nous entretenons par l'action avec le monde, ce que nous faisons dans le monde. Et là, le concept fondamental autour duquel gravite la notion de confiance, c'est la notion d'attente de comportement. Nous nous attendons toujours dans une action à ce que les choses se comportent d'une certaine manière. Nous ne faisons pas qu'exprimer une volonté que nous exécutons, mais nous devons nous attendre à ce que les choses se comportent d'une certaine manière. Que le sol me supporte lorsque je marche, que le réveil matin me réveille le matin, que les personnes fassent ce qu'on peut attendre d'elles, etc. C'est donc la notion d'attente de comportement qui était tout à fait cruciale dans cette notion de rapport au monde, et c'est de là que vient la définition que je propose de la confiance, qui est d'être un pari sur les attentes de comportement. Nous parions que les choses vont se comporter d'une certaine manière. C'est ça, une relation de confiance, et on voit donc bien qu'elle se distribue sur l'ensemble de nos rapports au monde, choses, personnes ou institutions.
Vous voulez réagir, Claudia Sénic, à cette définition qui rejoint un peu la vôtre, hein, de la confiance du philosophe Marc Ougnadi, un pari. Moi, je n'aurais pas pensé comme ça au départ à la confiance, mais au fond, c'est un pari. Un pari essentiel pour vivre en société, pour se faire confiance à soi-même, à son amoureux. Il y a aussi des questions de ce genre-là de nos auditeurs, à son amoureux, pour faire des affaires. Enfin, dans tous les cas, c'est un pari.
C'est un pari, c'est l'anticipation, c'est la manière dont je peux anticiper que le monde fonctionne, anticiper sans me tromper. Donc, mais évidemment, c'est... Marc Ougnadi dit qu'on baigne dans la confiance, mais en réalité, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est à la fois indispensable et fragile. Parce qu'en fait, vous dites un amoureux ou n'importe qui, il y a toujours un doute, une question, on ne sait jamais. La science, en fait, son mieux, mais on peut aussi se tromper. Les gouvernements, on leur fait confiance, mais après tout, ce sont aussi des êtres humains, etc. Donc,
c'est parce parfois, il vaut mieux pas leur faire trop confiance.
Voilà, donc il y a cette ambivalence de nécessité et doute qui fait qu'on met en place des mécanismes de surveillance, des contre-pouvoirs, de la transparence, etc., qui, comme on l'a dit précédemment, parfois se renverse aussi, joue un rôle contre-productif en créant encore plus de méfiance avec les réseaux sociaux qui balancent des hypothèses de défiance absolue.
C'est ça, et des informations dans tous les sens. Voilà. Enfin, on nous cache tout, on nous dit rien, c'est pas bien, mais on nous dit tout et dans tous les sens et sans faire le tri, on a bien compris, c'est pas bien non plus. Elena Pasquinelli, dans votre ouvrage, et je l'ai bien lu, hein, y a plein de choses à lire, mais sur l'art de faire confiance, vous nous dites que finalement l'opposé de la confiance, c'est pas tant que ça la défiance, c'est la peur.
Mais c'est la peur, justement, dans ce sens qu'on vient de dire, c'est la peur excessive parce qu'on ne sait plus si on a le droit de faire confiance, c'est-à-dire si l'environnement dans lequel on se trouve est un environnement qui maintiendra ses promesses. Si vous êtes à Paris ou à Londres, normalement, quand vous voyez passer un taxi, vous savez que si vous faites signe qu'il n'y a pas de lumière, il va s'arrêter. Si vous allez en Italie, vous êtes plus sûr de ça.
Donc, et vous descendez plus au sud, vous n'en êtes pas tout à fait sûr non plus.
Donc voilà, exactement. Donc ça veut dire que savoir évaluer votre environnement, savoir si vous pouvez faire confiance en moyenne. Après, il y aura toujours un chauffeur de taxi, peut-être qu'il ne va pas s'arrêter, hein, même à Londres ou même à Paris ou d'autres circonstances, mais les chances de se tromper sont plus basses. Donc il faut pouvoir savoir que les chances de se tromper ne sont pas excessives. Or, le fait est que nous sommes dotés, et ça c'est un peu une bonne nouvelle, hein, de capacités dès l'enfant, pour arriver à évaluer si notre interlocuteur, par exemple, mérite notre confiance, ou parmi plusieurs interlocuteurs, lesquels méritent plus de confiance. Nous avons des heuristiques rapides pour jauger, juger.
On est câblé comme ça, hein, vous qui êtes chercheur en sciences cognitives, c'est ça. Hein.
Oui, oui. On est câblé pour faire confiance, justement.
Ah, on est câblé pour faire confiance.
D'abord pour faire confiance, parce que c'est la condition pour apprendre des autres. Si vous ne faites pas confiance à ceux qui vous parlent, vous n'apprenez pas des mots par ceux qui vous parlent, parce que vous vous braquez par rapport au fait d'introduire dans votre cerveau des informations nouvelles. Mais en même temps, dès la première enfance, justement, ce câblage pour la confiance est associé à un câblage de méfiance, c'est-à-dire à un câblage pour faire le tri, pour faire le filtre. Mm-hmm. Puisque la confiance est si importante, puisqu'il est si important de bien choisir ses sources pour apprendre, pour vivre, pour dépendre des autres, pour collaborer, pour ne pas se faire avoir, il est important aussi d'avoir des mécanismes innés qui vous permettent un peu de faire le filtre, de voir si ce qu'on vous dit est vraiment cohérent avec ce que vous connaissez. Si c'est trop surprenant, vous avez une première réaction qui dit « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Si la personne qui vous parle vous a menti plusieurs fois dans la vie, vous avez un peu moins confiance,
c'est
en parlant de mari, femme, époux, que par rapport à d'autres. Et donc ces mécanismes, ils existent dans notre cerveau et des fois nous poussent, si on n'est pas capable de bien évaluer son environnement, parfois ils nous poussent à trop de peur, à trop de méfiance. Dans ces cas-là, on se trouve dans une situation d'extrême incertitude qui est extrêmement désagréable et au risque de tomber dans ce qu'on disait, des théories du complot, par exemple, excessives. Il est très différent de se méfier du gouvernement de Poutine par rapport à certains mensonges qui sont extrêmement communs et de se méfier systématiquement dans d'autres situations politiques où le niveau des mensonges n'est pas comparable à celui de certaines dictatures, par exemple.
Mais justement, vous parlez, Elena, dans votre ouvrage aussi, de cette question, enfin, de l'esprit critique qu'on peut développer par rapport à la science. Je vais aussi faire réagir Claudia là-dessus, mais c'est une éducation quand même, justement, à ne pas tout mettre dans le même sac. Or, je pense que nous, aujourd'hui, avec l'avalanche d'informations, on a un peu tendance à tout mettre dans le même sac. Or, il n'y a pas à tout mettre dans le même sac. Il y a une éducation à avoir pour se faire confiance ou pas, faire confiance à son propre jugement aussi.
Absolument, et c'est justement en s'appuyant sur ces mécanismes naturels, sur ces mécanismes précoces que nous avons couplés dans notre cerveau, à la fois de confiance et de vigilance, de capacité de filtrage, de métacognition, donc des capacité de s'interroger, mais est-ce que de ça je peux être vraiment sûr? Qu'est-ce que je sais à ce propos réellement, etc. C'est en éduquant ces mécanismes naturels, en les outillant, en se basant sur eux, mais en les rendant plus puissants, plus adaptés à notre environnement actuel, contemporain, fait d'informations qui se passent par Internet, que nous n'échangeons pas juste en face à face, en se regardant dans les yeux. Donc on peut éduquer ces mécanismes en fournissant des connaissances. Dans les domaines de la science, il est très important d'avoir une base solide pour pouvoir juger si une nouvelle information est plausible par rapport aux connaissances scientifiques, par exemple, ou elle ne l'est pas. Quelqu'un qui vous dirait qu'on peut soigner la Covid avec des cristaux appuyés sur la tête. Si vous avez fait un peu de science à l'école, vous avez compris qu'est-ce que c'est l'énergie, qu'est-ce que la physiologie, comment agit le système immunitaire, ça va vous faire bizarre. Donc ça va vous aider à bien filtrer l'information. Et c'est de ça. Même que apprendre à distinguer les sources fiables et non fiables dans le monde d'aujourd'hui.
C'est ça, dans le monde d'aujourd'hui qui change tout le temps, qui est complexe à comprendre, qu'il y a des hypothèses, qu'il y a aussi ce que vous disiez Claudia Sénic, que de la recherche, donc il y a du doute permanent, de la remise en question permanente, être capable de remettre en question et de savoir aussi ce sur quoi il n'y a pas à remettre en question.
Oui, mais la question des sources c'est important parce que effectivement on peut trouver sur internet toutes sortes de choses et peut-être que le cerveau est câblé pour... Vous disiez tout à l'heure que Elena, la science finalement, plusieurs chercheurs cherchent en même temps sur un sujet et puis à un moment donné ça converge et les résultats des uns confirment les résultats des autres et là on tient quelque chose et c'est vrai. Et peut-être qu'on est câblé effectivement pour produire cette impression qu'une fois qu'on a trouvé un résultat plusieurs fois ou lu une information plusieurs fois, bon ben là c'est bon. Or, le problème, c'est que quand on fait ça en lisant des revues scientifiques qui ont été validées par des rapporteurs qui ont lu l'article pour chercher toutes les erreurs possibles et faire retravailler l'article et finalement accepter par l'éditeur, etc., on peut se fier aux informations qu'on trouve et qui sont confirmées par d'autres articles. Mais en revanche, quand on trouve de la même manière plusieurs informations semblables sur le net qui sont issues de n'importe qui parlent au nom de n'importe quoi et souvent même de manière anonyme, alors ça produit la même impression de véracité. D'accord. Alors qu'en réalité, ce n'est fondé sur absolument rien de crédible ou de légitime.
C'est un vrai fake, en fait, enfin, qui trompe notre cerveau, notre manière de fonctionner.
Mais ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui trouvaient, par exemple, que de toute façon, maintenant, à propos de l'orthographe, par exemple, bah, la véritable orthographe, c'est celle qu'on trouve sur Internet. Donc, vas-y, je tape tel truc. Et si je le trouve, c'est que c'est bon, peu importe le becherel. Voilà, bon, ça c'est pour l'orthographe, on peut dire l'orthographe n'est qu'une convention. Mais en fait, cette manière de raisonner se trouve aussi pour d'autres choses qui sont plus dures scientifiquement. Et je voulais dire aussi que l'ouvrage que j'ai dirigé, entre guillemets...
Oui, absolument, crise de confiance,
il y a deux articles qui parlent de ça, de la manière dont on est câblé pour faire confiance ou pas faire confiance. Il y a un article de Marion Worms, qui est philosophe à Paris 1, Université de Paris 1, qui part de l'hypothèse souvent admise que l'on est crédule. Ce que vous disiez au début, on est câblé pour faire confiance. Et elle refait des expériences bien connues qui montrent qu'en fait, on n'est pas si crédule que ça. En fait, on est crédule quand on a affaire à un énoncé qui est quand même assez plausible. Quand l'énoncé n'est pas du tout plausible, on n'est pas crédule. Et un autre article, une autre expérience de Sacha Bourgeois-Jérôme, qui lui est économiste, mais fait aussi des neurosciences, et qui montre qu'on est aussi câblé pour réagir à des expressions faciales, il y a des signaux corporels et des attitudes qui jouent directement sur notre cerveau le plus archaïque.
Et là, on fait confiance
beaucoup
tout de suite.
Beaucoup plus fortement que d'un calcul qu'on devrait faire sur est-ce que la personne m'a bien rendu la monnaie ou pas. Et donc, en fait, parfois, on peut tromper quelqu'un en jouant sur ses réflexes archaïques.
C'est ça, on se laisse avoir par
les émotions, l'expression, le sourire, l'attitude
bien
corporelle.
Sûr, on va y revenir. En gros, moi, j'ai quand même compris quelque chose, c'est que s'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il sait tout, qu'il a tout compris, faut peut-être s'en méfier. Hein. Faut pas lui faire confiance tout de suite, surtout sur Internet. Allez, j'aime les gens qui doutent, disait la regrettée Anne Sylvestre, que je propose d'écouter tout de suite sur RFI.
Autour de la question sur RFI.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs, ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
Anne Sylvestre sur RFI In Memoriam, les gens qui doutent. Autour de la question comment reconstruire la confiance, en compagnie de nos invités, l'économiste Claudia Sénic, qui a dirigé l'ouvrage collectif Crise de confiance, point d'interrogation, et Elena Pasquinelli, co-auteur de L'art de faire confiance. Deux ouvrages dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail. Ou sur notre page Facebook, on était avec Anne Sylvestre dans la question du doute et dans la question de la confiance. Elena Pasquinelli, en science, pour un nouveau contrat entre la science et les citoyens, c'est le sous-titre de votre ouvrage. En science, le doute est fondamental, mais il ne s'agit pas de douter de tout, mais d'être capable de remettre les choses en question, c'est ça ?
Exactement. Et douter de tout est enfin une attitude qui est très semblable à ne douter de rien. C'est-à-dire, on ne sait pas faire la distinction entre ceux qui méritent notre confiance, faire confiance à bon escient, et qui ne le méritent pas. C'est qui, au contraire, l'objectif, arriver à faire confiance dans des sources qui le méritent, à ne pas remettre tout en discussion, tout en doute, tout le temps. Si on vous dit que la Terre est ronde, vous avez le droit de faire confiance aux scientifiques qui vous le disent. Si des scientifiques ont atteint un consensus sur le changement climatique, depuis des années, avec une multiplication de données, une convergence d'opinions qui se base sur des méthodes très rigoureuses, vous avez le droit de faire confiance. Et ça va vous aider effectivement à prévoir le futur, à agir de façon qui correspond avec les connaissances actuelles. Pour arriver à ça, pour arriver à ce contrat, je pense qu'il est important d'abord, un contrat, ça se fait à deux ou à plusieurs de toute manière. Donc, d'un côté, du côté du citoyen, il est important d'arriver à comprendre. Pour lui, ça comporte un effort. Pour la société, ça comporte un effort éducatif à comprendre pourquoi des connaissances, par exemple, comme celles produites par le GIEC sur le changement climatique, méritent notre confiance par rapport à l'opinion de quelqu'un qui se lèverait un matin, un Donald Trump quelconque, qui dirait « Mais moi, aujourd'hui, j'ai froid. Il n'y a pas de réchauffement climatique. » Et pour comprendre ça, je pense qu'il est important d'ouvrir la porte, on parlait avant d'ouvrir la porte de la science comme cela s'est passé un peu cette année, mais de l'ouvrir de façon systématique et de l'ouvrir de façon intelligente, aller voir comment les scientifiques produisent leurs connaissances. C'est pourquoi je dois leur faire confiance ? Mais parce qu'ils utilisent des méthodes que moi, dans la vie de tous les jours, je n'utilise pas. Et je ne parle pas que des microscopes, télescopes ou PCR. Je parle de stratégies qui leur permettent de contrôler ce qu'ils disent, de se contrôler réciproquement, comme on vient de le dire, par la revue par les pairs, par les conférences, par l'analyse du discours de l'un et de l'autre, par la publication. Certaines fois, ça laisse quand même passer des erreurs, mais dans la plupart des cas, ça permet, c'est une stratégie, c'est un outil méthodologique qui permet de vérifier les données, de vérifier des résultats. Et d'autres stratégies qui permettent de bloquer l'envie de confirmer ses idées à tout prix, parce qu'on en a tous envie, mais là, il y a des
stratégies... C'est ça de dire j'ai raison, mais c'est pas si facile que ça. Voilà, j'ai trouvé.
Et qui demande un effort énorme. Et c'est un effort que seulement une communauté entière peut s'imposer. Tout seul, probablement, je ne le ferai pas. Donc, ouvrir ces portes permet de voir pourquoi l'observation scientifique, l'expérimentation scientifique avec tous ces contrôles, le consensus, la publication, la convergence des idées permet d'avoir confiance.
Et vous le montrez d'ailleurs. Exactement, vous nous emmenez visiter des laboratoires.
On a demandé à des chercheurs d'ouvrir un peu ces portes de façon intelligente en nous expliquant ce qui s'est passé. C'est ça la façon intelligente, pas juste « et voilà, un nouveau résultat, non, mais moi j'ai les résultats opposés », mais de nous prendre par la main, et le lecteur avec nous, de nous amener sur les Alpes à la recherche des loups pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'observer le loup vraiment. On est descendu dans les caves, les cavernes du CERN pour chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que traquer des bosons, mais on est allé aussi à l'Institut Pasteur pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que développer un vaccin, c'était bien avant la crise actuelle. Donc
c'est vrai que c'est comme ça qu'on comprend, Elena Pasquinelli, quand on, comme ici autour de la question, quand on reçoit des chercheurs et qu'on arrive à comprendre véritablement leur démarche, et on se rend compte que quand on comprend, ça va mieux. Mais la confiance, et j'ai envie de vous interroger là-dessus, Claudia Sénic, la confiance, on se rend compte, elle se construit petit à petit, longtemps, Et puis elle peut aussi s'effondrer très vite en économie, normalement, enfin, qui est votre domaine, c'est le cas. C'est sur la confiance que tout tient, mais ça peut s'effondrer d'un seul coup.
Non, exactement. Mais sur la recherche, c'est vrai qu'il faut exposer au... Enfin, c'est bien d'exposer au public la manière dont ça fonctionne, de leur montrer que ce n'est pas juste une opinion, que ce n'est pas des opinions, etc. D'un autre côté, c'est difficile. Enfin, on peut les exposer, mais de leur faire vraiment comprendre, pour qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe, c'est pas évident.
On peut faire comprendre la démarche.
Voilà. C'est ça. Et pour ça que j'ai remarqué qu'en fait, les ouvrages scientifiques, enfin, en tout cas en sciences sociales, en économie et même en sciences, sont écrits de cette manière-là, rédigés. C'est-à-dire que maintenant, quand on peut lire des ouvrages, bon, c'est un peu des ouvrages de vulgarisation, mais pour un public quand même exigeant, on raconte l'histoire. Alors voilà, j'étais avec mes étudiants et je réfléchissais à telle hypothèse et on s'est dit, tac, et si on faisait telle expérience En fait, on raconte et on tient le lecteur par la main, on raconte comme une histoire, une sorte de petit récit, où on met en scène le processus de la recherche. Et c'est peut-être pour ça, en fait, c'est pour établir ce lien de confiance.
C'est ça, et où on se met finalement dans l'esprit du chercheur, où on voit effectivement les doutes, les chemins de traverse, qu'est-ce qui fait qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas, et que c'est à plusieurs que ça se passe. On va revenir dans votre domaine, en économie, en Claudia Sénic, même si vous avez travaillé aussi sur l'économie du bonheur et sur l'économie du bien-être. Comment construire la confiance, comment la reconstruire en économie notamment, comment construire de nouveaux contrats de confiance. Tiens, donc, il y avait une publicité dans le temps qui m'a reparté là-dessus. C'est là-dessus que vous réfléchissez, Claudia Sénic, au sein de l'Observatoire du bien-être. C'est là-dessus que réfléchit aussi un sociologue sénégalais, Lamine Sagna, qui s'est beaucoup intéressé, lui, aux questions économiques, à la monnaie notamment. Il enseigne actuellement à l'Université d'État de Worcester aux États-Unis, après avoir enseigné à l'Université de Yola au Nigeria. Je vous propose de l'écouter sur la confiance, donc vue du Sud, vue d'Afrique. Entre le Sud et le Nord, la confiance n'est pas toujours au beau fixe. On écoute Lamine Sagna.
Oui, moi j'avais travaillé sur la gestion des incertitudes par des populations en difficulté. Comment les populations pauvres, dans leur rapport à l'argent, ils essaient de gérer leurs incertitudes. Et que fondamentalement, c'est fondé sur le rapport de confiance. Alors, la confiance, d'abord, l'origine du mot vient de la foi. Dans les relations sociales, la confiance est fondamentale. Sans confiance, il ne peut pas y avoir société. Et cette foi-là, ça peut être la foi en l'avenir, en l'autre. Et puis, il y a la confiance en soi, c'est-à-dire sur ses propres capacités à pouvoir faire face aux risques futurs ou bien aux incertitudes qui vont se présenter dans le futur. Par exemple, sur le plan des politiques économiques, c'est sûr que la plupart des gens du Sud considèrent que les politiques qu'on fait appliquer à l'Afrique, par exemple, sont des politiques qui contribuent plutôt à la richesse des pays européens, qui ne tiennent pas compte des intérêts de l'Afrique. Par exemple, la question du franc CFA, le débat sur le franc CFA aujourd'hui en Afrique, c'est cette question où pratiquement beaucoup d'économistes africains rejettent cette monnaie puisque les Africains ont très peu de marge de manœuvre pour pouvoir se servir, faire des politiques monétaires. En tout cas, les conflits qu'on peut voir entre les chercheurs du Sud et ceux du Nord en général, qui sont sur les questions économiques, politiques ou en sciences sociales. Donc, les chercheurs africains en général, dans le domaine économique et des sciences sociales, ils n'ont pas confiance, ils ne sont pas d'accord, d'abord leur désaccord, et ensuite ils se méfient de toutes ces politiques qui viennent, par exemple, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, parce que l'expérience a fait que le plan d'ajustement structurel qu'on avait établi en Afrique dans les années 80, ça produit plus de pauvreté et plus de catastrophes en Afrique maintenant. Donc, on n'a pas confiance aux institutions telles que le Fonds monétaire, la Banque mondiale, ou si on ne croit pas à leur efficacité, on n'aura pas confiance. On perd confiance. Et c'est ce qui se passe sur le plan des relations économiques entre le Nord et le Sud en ce moment.
Vous voulez réagir, Claudia Sénic, à cet éclairage du sociologue Lamine Sagna, des propos recueillis par notre reporter Charlie Dupiau.
Je reconnais la critique très fréquemment émise face aux politiques structurelles d'ajustement imposées par le FMI. C'était des politiques de conditionnalité, c'est-à-dire on vous aide à régler vos problèmes de balance commerciale et de balance de paiement, enfin, ou de crise de la dette publique. En échange, on vous demande de faire des réformes structurelles qui sont en général pas très populaires et parfois un peu vues de loin. Donc ça, c'est bien connu. Mais il y a autre chose qui a été dit, c'est sur la monnaie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat sur le franc CFA, mais c'est très, très important que la monnaie qui est utilisée dans un pays ou dans une région comme l'Union européenne est une valeur assez stable et permette à l'économie de fonctionner, aux échanges de se faire, et puis aux gens de pouvoir épargner s'ils veulent épargner, et puis faire, etc. Et ça, la Banque centrale est en charge de la gestion de cette monnaie. Le fait que le pouvoir d'achat d'un euro se conserve au cours du temps crée la confiance dans la monnaie et donc dans la région. Et là, au cours de la crise du Covid, justement, la politique monétaire de l'Union, de la Banque centrale européenne a été extrêmement active. Elle a soutenu à bout de bras, les dépenses des États pour eux-mêmes soutenir les entreprises en difficulté, les gens qui étaient en chômage partiel, etc. Il y a eu vraiment une politique monétaire de soutien et puis accompagnée de politiques de dépenses budgétaires qui sont de nature, normalement, à créer la confiance dans les gouvernements d'Europe et même dans l'Union européenne elle-même. Normalement, ça devrait être le cas.
Normalement, ça devrait créer de la confiance, puisque les banques soutiennent mais.
Voilà, malgré tout, quand même, par exemple, pendant le premier confinement, où l'activité s'est complètement réduite à un peu de chagrin, les revenus des gens étaient relativement préservés en France, vraiment assez préservés.
Ce qui explique, du coup, pourquoi, effectivement, dans les pays du Nord, on devrait avoir plus confiance dans nos gouvernants, dans nos institutions, que par contre au Sud, ça peut poser des tas de questions et d'autres questions. Elena Pasquinelli, avec la Fondation La Main à la Pâte, vous avez organisé plusieurs conférences sur ces questions de développement d'esprit critique, de développement des sciences et de la confiance sur le continent. Ce ne sont pas les mêmes questions qui se posent, et parfois, moi je vois bien avec des chercheurs africains ou avec des jeunes africains qui disent notamment autour de la confiance dans les données qu'on donne à nos gouvernements. Nous, on a normalement confiance dans nos gouvernants pour gérer nos données. Dans d'autres pays, les questions se posent là aussi. Vous voulez réagir, Elena ?
Absolument. On a eu un très stimulant séminaire international sur l'esprit critique au mois de décembre avec 15 pays, dont 4 pays africains, 5 pays africains, mais aussi les Philippines, l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada et d'autres pays européens. Et effectivement, bien que le problème de l'esprit critique, par exemple, se pose partout, on a tous cette exigence d'éduquer l'esprit critique, aider les élèves à bien reconnaître les informations, à définir et décider, et à bon escient, à qui faire confiance, donc en fin des comptes, parce que c'est son synonyme, l'idée d'esprit critique et de confiance à bon escient. On voit aussi que, naturellement, les contextes changent, et du coup, les sujets auxquels on peut plus facilement faire confiance, ou les raisons de la confiance changent, et de façon parfois surprenante. On a parlé des vaccins, par exemple. Je demandais à tous nos collègues si dans leur pays, il y avait un problème relatif à la vaccination, d'inquiétude par rapport à la vaccination. Dans certains pays, c'est une surprise, les États-Unis, etc. Il y avait des levées d'yeux qui regardaient vers le haut en disant « Oui, tu ne peux pas comprendre, je comprends très bien en France, habitant en France. Ouais, » Il y avait d'autres pays où on nous disait « Mais nous, on fait la fête après la vaccination. On amène nos enfants se vacciner à l'hôpital public et après, on se réunit tous à la maison et c'est la fête pour fêter que notre enfant est protégé par des maladies dont on a le souvenir et du coup où on voit quelle est la balance des risques et des bénéfices, on la voit bien, on l'aperçoit bien devant. Alors que dans d'autres pays où le risque est devenu invisible grâce à la vaccination, je pense à la rougeole, etc., le doute, la peur, c'est bien plus important.
À remplacer la confiance. C'est assez paradoxal tout de même, parce qu'on a parfois l'impression que finalement, c'est pas très logique, c'est pas très rationnel notre confiance. On se rend compte qu'on est câblé pour faire confiance, mais aussi pour nous méfier, et c'est pas très rationnel. Dans les pays, c'est sûr qu'ici on devrait sauter sur les vaccins, auront polémique, et on a peur, et la peur remplace la confiance alors qu'elle devrait être là, et dans d'autres pays où on n'a pas le choix, on fait automatiquement confiance à des dictatures, par exemple. Qu'en pensez-vous, Claudia ?
Il y a un équilibre risque bénéfice, quoi. Le risque qu'on prendrait en se vaccinant si jamais il y avait des effets secondaires, donc d'un point de vue individuel, on voudrait attendre que l'autre l'ait fait avant nous pour voir ce que ça donne. D'un autre côté, le bénéfice, c'est d'être protégé et puis aussi que la population soit protégée. Et puis que si tout le monde se vaccine, le virus ne mute pas, parce que ça pourrait devenir bien pire. Donc il y a toute cette espèce de calcul. Et c'est vrai que plus on est éloigné du sentiment de risque et de la mort, en fait, et on vit dans une société où on n'y pense pas au quotidien, moins on a envie de prendre le risque. En fait, ça, c'est un truc que l'économie comportementale a montré, c'est-à-dire cette intersection entre économie et psychologie, c'est qu'on est prêt à prendre plus de risques pour éviter des choses négatives, pour éviter des malheurs. Donc on, si on se sent plus concerné par un risque, par une menace qui pèse sur nous, on est prêt à prendre des risques, alors que prendre des risques juste pour quelque chose, pour améliorer une situation, on est moins prêt. C'est l'aversion à la perte.
Vive l'esprit critique pour ne pas avoir l'aversion à la perte, ou en tout cas pour le savoir finalement, pour savoir discriminer, faire la différence et se rendre compte de ce qu'on pense et de la manière dont on réagit, parce que nos vies, elles sont quand même sacrément complexes aujourd'hui, interconnectées, et on devrait être protégé de tout, on espère être protégé de tout, sauf que la vie justement c'est risqué, vous l'avez dit, c'est mortel hein, aussi. Et pour la traverser avec ces tempêtes en confiance et en conscience, je vous propose d'écouter une petite pépite signée Clara Isée sur RFI. Je me suis dédoublée. C'est le premier titre de cette jeune chanteuse. Titre écrit suite à la mort accidentelle de sa mère, la lumineuse philosophe Anne Dufourmentel. On écoute Clara Isée sur RFI et on se fait du bien ensemble, malgré et envers tout.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
C'est dédoublé, superbe titre de Clara Isée sur RFI. Autour de la question comment construire, comment reconstruire la confiance envers et contre tout, nous sommes en compagnie de l'économiste Claudia Seny qui a dirigé l'ouvrage collectif Crise de confiance, point d'interrogation, et de la philosophe Elena Pasquinelli, co-auteure de L'art de faire confiance pour un nouveau contrat entre la science et les citoyens. Est-ce que c'est pas plus compliqué aujourd'hui de faire confiance dans un monde aussi complexe que le nôtre, où l'on a peut-être longtemps cru que qu'on allait échapper à tout, hein, finalement, même à la mort. Qu'en pensez-vous, Claudia Sénic?
Oui, c'est plus compliqué parce que le monde va plus vite. Et donc, on a plus de mal à se construire une vision d'un monde stable et compréhensible et qui se reproduit de jour en jour et qu'on comprend et qu'on peut anticiper et qui va rester. C'est ça, en fait, on a confiance parce que quand on peut anticiper, on a confiance. Donc, plus les choses sont stables et plus on a confiance. Là, ça va vite. La technologie change à toute vitesse. Elle transforme les métiers, elle transforme la vie, elle transforme même les rapports, même la manière d'enseigner et d'organiser des séminaires. Donc ça va vite et ça va beaucoup plus vite que le rythme des individus et a fortiori des gouvernements.
C'est ça. Et pourtant, on n'a jamais tant eu besoin de nous refaire confiance aujourd'hui. Comment reconstruire, hein, c'est ce qu'on disait, cette confiance abîmée. Notamment abîmée par ceux qui en ont beaucoup profité, qui en ont presque joué de notre confiance. Écoutez voir, juste pour le plaisir des oreilles, cette publicité pour une célèbre marque d'assurance qu'on aurait carrément pu adopter comme jingle aujourd'hui autour de la question de la confiance.
On notera que, d'une manière générale, et sans porter le moindre jugement, ceux qui s'appuient sur la confiance, confiance en eux, confiance dans les autres, confiance dans la vie, eh bien, tout se passe mieux pour eux. Et la confiance, c'est une règle. Plus on la partage, plus elle grandit, plus on va loin. On a tout à gagner à se faire confiance.
Et oui, on a tout à gagner à se faire confiance. Ce sont les assureurs qui nous le disent, le pire du pire. Elena Pasquinelli, alors comment faire? Parce que vous avez écrit même un kit de survie hein, pour l'esprit critique dans votre ouvrage « L'art de faire confiance ». Vous n'êtes pas du tout assureur ou assureuse, vous êtes philosophe et spécialiste en sciences cognitives. Comment peut-on faire justement pour nous refaire confiance et pas seulement pour la publicité?
Je pense que ça demande un effort. C'est un effort qui vaut la peine, donc la première chose c'est de comprendre que l'effort ça vaut la peine, parce que sinon on va rester sur nos canapés, et c'est une tentation qui est tout à fait naturelle. Il faut faire un effort, et c'est un effort de se former et de s'éduquer, de mieux comprendre justement les sources qui méritent notre confiance, pourquoi elles méritent notre confiance, de se mettre à jour, parce que ces sources, on vient de le dire, ce monde change assez rapidement, les technologies changent assez rapidement, ça demande un effort de se tenir à jour sur quelles sont les bonnes sources d'informations, les médias par lesquels on peut passer pour obtenir des informations qui sont fiables, un effort pour ne pas immédiatement décréter avec force « Ah, j'ai compris que c'est comme ça,
c'est ça, faut attendre un peu, hein, avant.
Petit peu de patience, un effort de patience pour se maintenir dans un état aussi d'ouverture, de compréhension, quand les informations sont nouvelles ou les connaissances sont nouvelles par rapport à quand elles sont bien stabilisées. Donc l'effort aussi de savoir faire cette distinction, l'effort d'éduquer nos jeunes, l'effort de mettre le gros paquet sur l'éducation pour que la génération qui va hériter d'un monde encore plus complexe que celui-ci, parce que la complexité continue à augmenter, ils puissent avoir cette capacité très jeune, très tôt, de comprendre le monde, d'avoir des bases solides de connaissances de la réalité, pour avoir des clés pour établir la plausibilité d'une nouvelle information, mais aussi les clés pour analyser l'information, savoir que tout n'est pas pareil, qu'il y a des différences de fiabilité d'un côté ou d'un autre, et pour comprendre aussi les méthodes des scientifiques, c'est mon domaine plutôt, les méthodes des scientifiques pour produire et pour créer ces connaissances qui méritent leur confiance. Que l'effort est double, mais qui vient aussi des scientifiques, par exemple.
C'est ça, qui doit venir, bien sûr. Hein. Bien sûr, des scientifiques eux-mêmes. Moi, je pense à la phrase d'Edgar Morin, philosophe et sociologue, qui dit finalement que, à mesure que s'agrandissent les connaissances, s'agrandissent aussi l'étendue de notre ignorance, ou le fait qu'il voit de plus en plus l'étendue de son ignorance. Mmh. Ça, je pense que c'est le vrai sage. On va peut-être terminer là-dessus, Claudia Sénic. C'est de savoir qu'on ne sait pas grand-chose, et d'arriver à discriminer, et d'arriver à faire tout de même, à faire confiance et à se faire confiance.
Là, on parlait de la confiance, enfin, Elena parlait de la confiance au niveau individuel et cognitif, mais on parle aussi de la confiance au niveau de la société. Et donc, pour se faire confiance, il faut sentir quand même qu'on est ensemble dans un même projet. Par exemple, ça dépend aussi des institutions. On parlait tout à l'heure du Nord et du Sud. Les institutions, la gouvernance et le projet, le projet européen, par exemple, continue à créer cette zone de paix, en tout cas. Ensuite, faut sentir qu'on a un fond commun, qu'on fait société, qu'on partage quand même des choses essentielles de la même manière, telles que la santé, par exemple, en France, la santé publique, l'éducation.
Et voilà. Que ce sont ces liens-là qu'on a envie de faire
fructifier. Et que ce sont ces liens qui sont importants
et auxquels
on croit. Voilà.
Et que donc 2021 sera l'année du lien. Mm-hmm. Merci infiniment à toutes les deux. Elena Pasquinelli, Claudia Sénic, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs dont nous avons, je vous le rappelle aussi, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Donc Claudia Sénic, il s'agit de Crise de confiance, point d'interrogation, crise de confiance au pluriel, paru aux éditions de La Découverte, ouvrage que vous avez dirigé. Elena Pasquinelli, L'art de faire confiance pour un nouveau contrat entre la science et les citoyens, paru chez Odile Jacob. On vous donne rendez-vous aussi, chers amis auditeurs, sur le site de La Main à la Pâte. Je vous donne rendez-vous demain avec Hugo Violas de l'autre côté de la vitre, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Nechowski au micro. Merci pour votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, en lien bien sûr et en confiance si on peut. C'est mieux, c'est bientôt l'heure du journal sur RFI.